Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Les Voix de l'Engagement, une émission qui a pour ambition de mettre en lumière les personnalités qui s'engagent dans le secteur associatif et qui essayent d'être le plus utile pour les personnes les plus vulnérables. On reçoit aujourd'hui deux invités prestigieux. Ahmed Gayet, qui nous vient du Maroc, qui est franco-marocain, et Redouane Lazare, qui est un Valdoisien, un Voréalien, qui est engagé dans le monde associatif depuis quelque temps. Un ancien bras de feriste, hein, c'est un champion de bras de fer, qui s'est muté en acteur associatif engagé. Alors, pour rappel, notre émission va surtout s'intéresser à leur parcours, à leur engagement. Et on va essayer d'explorer un petit peu leurs actions sur le terrain. Alors moi, je voudrais quand même dire quelques mots, évidemment, avant de démarrer. Mais Les Voix de l'Engagement, c'est une émission où la solidarité n'est pas qu'un mot qui prend la poussière, mais une réalité bien concrète qui parfois se transforme dans un camion rempli de meubles. L'allusion, Redouane l'aura compris, mais vous l'aurez compris aussi après. Parce que oui, aujourd'hui, on va parler de solidarité, pas celle qui reste coincée dans les beaux discours, mais celle qui se vit, qui se porte, qui se livre même, parfois jusqu'au 10e étage sans ascenseur. Avec nous, deux invités exceptionnels, Ahmed Gayet, acteur associatif franco-marocain, qui nous prouve qu'on peut défendre la culture comme d'autres brandissent une épée. Sauf que son arme à lui, c'est l'instruction massive. Et je crois qu'il sait à quoi je fais référence, puisque c'est une formule que je lui emprunte. Et Redouane, qu'on appelle tout simplement Monsieur Solidarité, lui, son super pouvoir, c'est de transformer un vieux canapé en nouveau départ pour une famille. Pas besoin de cap, juste un bon coup de main. Alors, installez-vous confortablement dans vos fauteuils ou un canapé, peu importe, mais si vous n'en avez pas, restez à l'écoute, Monsieur Solidaire pourrait bien vous en trouver un. C'est parti pour 90 minutes de témoignages, d'histoires, d'humour et surtout de chaleur humaine. Alors Ahmed, bonjour.
Bonjour.
Tu nous viens, alors tu t'es tout frais, hein. Tu viens de débarquer du Maroc.
Oui.
On va comprendre tout à l'heure le lien aussi entre le Maroc et la France, ce trait d'union-là entre ces deux rivages, puisque tu es engagé associativement depuis de longues dates au Maroc, presque 25 ans, mais pas seulement, tu as eu aussi toute une aventure engagée à l'échelle, j'allais dire politique, mais tu nous en diras un peu plus tout à l'heure dans ton passé, parce que, bon, je fais une petite confidence aux auditeurs, mais je te connais depuis de longues dates, mais surtout je t'ai vu déambuler dans les cabinets ministériels en tant que conseiller ministériel, mais ça tu nous reparleras de cette aventure tout à l'heure. Moi je me souviens de t'avoir croisé dans les cabinets de Madame Guigou, Elisabeth Guigou.
Oui.
Voilà, et puis je crois que tu as bossé aussi avec Martine Aubry.
C'est ça.
Voilà. Et tu vas nous parler aujourd'hui de ton engagement, de ce que tu as fait et ce que tu continues à faire pour la jeunesse, en particulier au Maroc, à travers la culture et à travers aussi peut-être des pistes de solutions de solidarité aussi sur le terrain, un peu comme le fait notre autre invité, Redouane Lazare, que je salue. Bonjour Redouane.
Bonjour.
Alors toi aussi, tu nous viens ce matin, alors de moins loin, puisque tu viens de Voreal, hein, et du coup tu es venu sûrement avec ton camion qui devient célèbre, hein, ce camion, puisque je crois que tu l'utilises quotidiennement pour essayer de redonner le sourire à des personnes en grande difficulté, pour se meubler, pas souvent, à des mamans solo que tu essayes de soutenir et qui évidemment cette aide précieuse leur est complètement utile, et puis on verra aussi les impacts a posteriori de cette action, puisque elles sont très utiles aussi pour les enfants de ces familles, de ces mamans, et on en reparlera tout à l'heure. Moi, je voudrais commencer peut-être par un portrait d'Ahmed rapide, et puis il nous dira, il le corrigera ou pas. C'est lui qui pourra nous.
Fais gaffe, hein.
Nous le dire.
Je suis pas champion de bras de fer, mais quand même.
Bah, tu nous diras, hein, mais voilà. Alors. Je me suis concentré surtout sur la culture, Ahmed, parce que tu as fait des choses exceptionnelles, notamment à Essaouira, en lien avec l'association Salam Leloukam, voilà, dont tu nous parleras sûrement. Mais il y a des hommes qui, sans bruit, sans grand slogan, bâtissent des ponts, là où d'autres dressent des murs. Ahmed Gayet est de cela. Acteur associatif franco-marocain, il a choisi de faire de la culture et du monde associatif une arme douce mais puissante. Non pas une arme de division, mais une arme d'instruction massive. Comme il aime à le rappeler. Secrétaire général de l'association Salam Leloukam, il incarne une génération qui croit encore au pouvoir du vivre ensemble, une génération qui refuse que l'histoire plurielle du Maroc, juive, musulmane, amazigh, chrétienne, soit reléguée au passé. De ces engagements naît un combat simple et universel, redonner aux jeunes qui y vivent au Maroc, en France ou ailleurs, la fierté d'une identité multiple, une identité qu'il appelle le Tamaribiti.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et celle d'un Maroc inclusif qui rassemble plutôt qu'il ne sépare. Son parcours est celui d'un homme qui n'a pas cherché la lumière pour lui-même, mais qui a choisi de l'allumer pour les autres. À travers les associations, les rencontres, les débats, Ahmed s'est imposé comme un passeur, un artisan de l'âme, un porteur d'espoir. Aujourd'hui, il est avec nous dans ce studio pour partager sa vision, son énergie et nous rappeler que face aux intolérances, la culture reste le plus beau des remparts. On va faire une pause musicale et puis on revient après et puis vous nous en direz un peu plus, on a hâte.
Qu'est-ce qui me traîne? J'ai le Vésuve au fond des veines. Ah, elle est si belle, la douleur qui m'interpelle. Le plus beau des coups que la vie assène. Le plus beau des corps, de corps qui joue la scène. Je suis tant étourdi, je tiens à peine. Mais ses désirs me retiennent. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle. Dans ce carrousel. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle. Dans ce carrousel.
Dans ce carrousel, dans ce carrousel. Dans ce carrousel, dans ce carrousel.
Je ne joue pas, ce n'est pas un game. Là tu t'engages, quand tu m'aimes. Faudra me préserver jusqu'au souffle dernier. Je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Oui, je cours, j'ai le cœur en aller-retour. Première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel.
T'es belle, rebelle, je suis immortel. C'est toi qui décèles tout ce que ma peau recèle. J'ai peur de toi comme d'une sublime attraction. Une seconde avant l'action.
Si tu m'aimes, si je t'ouvre mon cœur, c'est que tu sèmes une graine, une fleur. Tu devras me garder abîmée ou belle dans ce carrousel.
Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel.
Oui, je cours.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Nous revoilà pour l'émission Les Voix de l'Engagement et pour reprendre avec Redouane, pour qui j'ai également rédigé un petit portrait, histoire simplement de poser le tableau et le personnage. Il y a des physiques d'un champion et pour cause, Redouane fut un jour bras de fériste de haut niveau. Il nous en dira plus tout à l'heure, mais aujourd'hui, sa véritable force n'est plus dans l'arène. Elle est dans la solidarité. On l'appelle Monsieur Solidaire. À travers son association Tous Solidaires 95, il sillonne le Val d'Oise pour récupérer des meubles et de l'électroménager. Et je crois pas seulement le Val d'Oise, et de ce que j'ai compris, mais il t'est arrivé un peu d'aider d'autres personnes ailleurs. Qu'il redistribue évidemment ce mobilier, cet électroménager gratuitement à ceux qui n'ont rien. Tout est parti d'une constatation simple, des objets encore utilisables jetés aux encombrants alors que des familles dorment sur des matelas à même le sol. Depuis, son combat est devenu un mouvement. Des milliers de personnes suivent son action et déjà des dizaines de familles ont retrouvé un vrai foyer grâce à lui. Et je plaisante pas quand je dis que des milliers de personnes suivent son action, puisqu'il a été très largement médiatisé ces dernières années. Avec son frère Ryan, Redouane monte les étages, lave-linge, sur le dos, sourire au visage. Chaque lit, chaque table, chaque canapé livré devient un nouveau départ pour une famille. Ce soir, il est avec nous pour nous raconter cette aventure humaine et solidaire qui preuve, avec peu de volonté, et t'as raison de me corriger, on n'est pas le soir, on est le matin et on est lundi matin. Ah, attention. Alors, lundi matin, on a envie d'être le soir, hein, parce que...
Oui, le lundi toujours, en particulier.
Ouais, voilà. On peut changer des vies un meuble après l'autre. Et je crois que Redouane, tu peux nous en dire quelque chose aujourd'hui, on t'écoute.
Tout d'abord, je tiens à te remercier pour l'invite. C'est très, très sympa de ta part. Moi, très simple, hein, il y a 4 ans maintenant, juste après Covid, quand on avait le droit de sortir, enfin, je me suis rendu compte en marchant, que c'était le jour des encombrants, qu'il y avait pas mal de choses sur les trottoirs qui étaient réutilisables. Et un soir, j'ai ramené une table à la maison et ma femme m'a dit, voilà, d'où tu sors cette table, les magasins sont fermés. Je lui ai dit, non, c'est une voisine qui l'a jetée. Donc voilà, et après, moi en parallèle, je fais pas mal de maraudes. Et un jour, quelque chose m'a interpellé, c'est qu'en donnant de la nourriture à une personne, elle m'a dit qu'il y avait un souci, c'est qu'elle avait pas mal de pertes en termes de jours parce qu'elle n'avait pas de quoi refroidir. Donc elle n'avait pas de frigo, elle n'avait pas de four, etc. Donc voilà, je me suis dit qu'il y a peut-être possibilité de créer un concept qui en plus serait solidaire et qui renouerait entre guillemets le lien social, surtout qu'après Covid, début de la guerre de l'Ukraine, les gens n'étaient vraiment pas très sociable, voilà, c'était très très compliqué, on venait de faire tomber les masques et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un groupe. On a commencé sur Facebook, on était 12, un groupe solidaire. Le concept, il était très simple, c'était si t'as quelque chose à la maison et ça fait plus d'un an que tu l'as chez toi et tu l'utilises pas, fais-en profiter, propose-le à ton voisin via la plateforme Facebook, il en aura lui peut-être besoin. Et donc ça a plu énormément.
Alors j'avais pas en tête ça. Ça a démarré aussi à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous avez identifié les premiers bénéficiaires sur le Facebook, c'est ça ?
C'est ça. Donc sur les Facebook, via le bouche à oreille. Alors moi je suis une personne qui est très active sur vos réels de base, hein. On me voit partout parce que je marche beaucoup, je fais pas mal de sport, je fais des sorties en vélo. Et via le bouche à oreille, je savais entre guillemets qui était dans le besoin. Et donc voilà, donc le concept a plu énormément. Donc de notre quartier, on s'est imposé le concept sur le quartier d'à côté. Sur le quartier à côté encore et surtout Vauréal. Donc en 6 mois, on avait tous les quartiers de Vauréal et on se faisait des doigts entre nous. Et quand j'ai vu que le concept a pris, je me suis mis sur les villes voisines, donc de l'agglomération de Cergy-Pontoise, donc les 13 communes. Et puis là, pareil, bah, du coup, sur Facebook, il y a 4 ans, on était 12, et aujourd'hui, sur le même concept de groupe solidaire et d'entraide, dans le Val-d'Oise, on est à plus de 50 000. Donc voilà.
Plus de 50 000 personnes,
ouais,
qui sont actifs
à tes côtés. Ouais, qui me font confiance. Donc ça, c'est cool. Moi, de mon côté, j'alimente toujours. Donc à chaque fois qu'on nous fait des dons, donc que ça soit une machine à laver ou autre, on prend une photo avec la famille. Et puis on l'envoie à la personne qui nous en a fait don, donc elle est très 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 heureuse. Donc
alors,
voilà.
Edouane, moi je te suis sur les réseaux sociaux, et ce que j'ai observé, c'est quand même que t'as des dons très importants. J'ai vu un camion après l'autre, j'exagère pas.
Bah en fait, pour l'histoire, il y a 4 ans quand j'ai commencé, donc voilà, moi je suis un acharné de la solidarité, mais c'est de famille. Le souci que j'avais, c'était que tout ce que je récoltais dans les encombrants ou auprès des gens, bah, il fallait bien le stocker. Comme tout assaut, on a besoin de stockage. Et quand j'ai proposé le projet à certains maires, ils m'ont dit « Non, Redouane, c'est gentil, c'est bien cool ce que tu fais, ça touche la solidarité et tout, mais là, c'est pas des maraudes, voilà, là, c'est des frigos, c'est des machines à laver, c'est des canapés. On n'a pas, nous, de notre côté, des lieux de stockage, et toi aussi, tu vas t'essouffler parce que c'est très lourd. » Donc voilà. Mais étant un compétiteur, et surtout dans le domaine de la force, moi, je lui faisais comprendre que non, bah, je peux porter tous les jours, il n'y a aucun souci, et voilà. Je suis persévérant, et quand je veux quelque chose, souvent, je l'ai. Donc, je stockais chez moi.
D'accord.
Je stockais chez moi, dans mon salon, il y avait un frigo devant ma télé, il y avait un canapé en plus du mien. Donc voilà, et il y avait des entrées, des sorties. Le rendement était bon, mais à un moment donné, il fallait quand même que je stocke chez moi, dans mes véhicules perso, dans les véhicules de mes voisins qui étaient très très solidaires. Et voilà, donc après, bah, avec de la persévérance et tout, via le réseau qui grandit aussi énormément, grâce aux médias aussi, on a fait un appel aux dons et c'est la Fondation Emmaüs qui nous a acheté notre premier camion.
Génial. Alors, tu vas nous en dire plus après, Redouane, parce que ce qui va nous intéresser aussi, c'est un peu, si tu peux nous illustrer, alors, en gardant l'anonymat, évidemment, mais de nous dire un petit peu ce que peuvent te dire les bénéficiaires de tes actions, les retours que tu peux avoir et les besoins surtout que tu as identifiés. Et j'imagine qu'en périphérie, tu as dû observer aussi d'autres besoins, pas simplement du mobilier, mais peut-être de la solitude, de la détresse, etc., que tu as pu aussi peut-être constater à travers tes actions. Mais je voudrais qu'on revienne sur Ahmed. Tu es secrétaire général de Salam les Koulam, et je l'ai bien dit, voilà. Mais tu es pas seulement secrétaire général de cette association, mais tu as aussi créé pas mal d'associations ces 25 dernières années. Et tu es aujourd'hui président d'une grosse association au Maroc qui fait des actions exceptionnelles, qui s'appelle Marocain Pluriel.
Oui.
Et tu en es le président.
Oui.
Et tu es entouré de gens exceptionnels. Alors je le sais parce que j'en ai croisé beaucoup et qui sont des personnes aussi autour de toi très engagées. Et je voudrais que tu nous en parles un peu plus et que tu nous dises un petit peu. Voilà.
Ok. Mais d'abord, pour te remercier, Assad, de nous avoir invités, Redouane et moi, je suis vraiment heureux de nous retrouver entre Marocains autour de ces micros. C'est fabuleux de faire le voyage de Casa jusqu'ici et puis de se retrouver en famille. Et je suis admiratif de ce que vient de...
Merci d'avoir fait ce déplacement aussi.
Je suis admiratif de ce que vient de nous dire Redouane. Moi, j'ai commencé l'engagement associatif très jeune. J'étais ado. Je vivais à la Goutte d'Or. C'est un quartier qui est au centre de Barbès. Barbès est plus connu que le nom de la Goutte d'Or, mais je suis un enfant de la Goutte d'Or. Et je me suis engagé alors que j'avais 16 ans, même pas 15 ans, dans le mouvement associatif en créant une association qui s'appelait Le Vent de la Zone. On n'arrêtait pas de nous dire « Ah, Barbès, le 18e, c'est la zone ». Nous, on a dit « Ben non, nous, on est hors la zone ». Alors, dès l'instant où je me suis engagé, je n'ai plus arrêté. J'ai fait de la radio, dans une radio à l'époque qui s'appelait Hidayat Shems, Radio Soleil. On a fait vivre cette association Le Vent de la Zone au sein de la jeunesse du quartier, puis ça s'est développé au sein de toute l'Île-de-France. C'était encore les balbutiements du mouvement. On l'a appelé le mouvement beurre plus tard. Et j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence, le début de mon âge adulte ici au Maroc, il y a une quinzaine d'années. j'ai choisi non pas de rentrer, parce qu'en fait j'étais jamais sorti puisque je suis né ici, mais j'ai choisi une quinzaine d'années d'entrer au Maroc. Et avec d'autres jeunes qui étaient franco-marocains retournés au Maroc ou bien marocains du royaume, on a créé l'association Marocain Pluriel qui a deux objectifs. Le premier, c'est la jeunesse. Aider la jeunesse marocaine des quartiers, des communes rurales, des écoles à créer ses propres structures et à être maître de son destin. À ne plus être des figurants de la vie sociale au Maroc, mais être des acteurs. Alors à ça, tu as cité la culture, et tu as raison. La culture est la clé. Mais nous avons ajouté d'autres cordes à la culture. Nous avons ajouté le sport, d'autant plus que nous sommes à quelques mois de la CAN au Maroc et à 5 ans de la Coupe du Monde. Donc le sport, le social. Par exemple, la rentrée scolaire approche. Nous allons avoir notre opération de distribution de fournitures scolaires et de cartables. Et puis l'humanitaire. Comme vous le savez, le Maroc a été touché il y a 2 ans par un lourd séisme.
Oui, et on a pu voir à l'occasion de ce séisme, septembre 2023, une solidarité exceptionnelle, où la société civile s'est mobilisée,
Et la jeunesse.
La diaspora s'est mobilisée, la jeunesse s'est mobilisée, c'était assez exceptionnel.
Oui. Et nous, à titre perso, avec les jeunes de Marocain Pluriel, d'Oujda, de Kaza, de Rabat, de Mohamedia, d'Essaouira, de Marrakech, nous avons fait 12 convois. 12 convois qui ont emporté des marchandises alimentaires, des tentes, des couvertures, bref. On a, pendant plusieurs semaines, on a fait les allers-retours. Donc voilà les cordes à notre arc de Marocain Pluriel. Le deuxième volet étant le vivre ensemble. En ces temps où le monde entier est en feu, en flamme, les guerres, les larmes des mères, quelles que soient ces mères, les larmes n'ont pas de couleur.
Bien sûr,
bien sûr. Nous agissons, nous œuvrons au quotidien pour que le vivre ensemble au Maroc, qui est une tradition millénaire, permette aux musulmans et chrétiens marocains de mieux vivre encore ensemble que ce que ne peuvent permettre les réseaux sociaux, qui font beaucoup de mal en la matière, mais aussi avec les chrétiens qui vivent sur notre sol. Et aujourd'hui, les Européens ont été beaucoup remplacés. Les chrétiens ont été remplacés par une nouvelle vague de chrétiens qui vit au Maroc, ce sont les subsahariens. Donc voilà, permettre que la jeunesse de ces trois religions vivent bien ensemble au Maroc. Et j'ajouterai quelque chose qui va vous toucher, c'est que je crois beaucoup à l'union des jeunesses, la jeunesse du royaume et la jeunesse de la diaspora. Nous avons tellement de choses à faire ensemble, tellement de points communs, tellement de valeurs en commun, et puis des racines communes. C'est vrai que les feuillages s'étendent sur les deux rives de la Méditerranée, mais je crois beaucoup, beaucoup à cette addition. Vous êtes, vous les franco-marocains qui vivez ici, des enfants de l'addition. Vous ne reniez rien de ce que vous faites en France, ou de ce que vous avez appris, ou de votre avenir, mais en même temps, vous recherchez à faire vivre les valeurs que vous ont transmises vos parents. Et d'ailleurs, il faut un vrai coup de chapeau à ses parents. Et puis, cette tradition, ces valeurs, cette culture marocaine qui est ancrée en vous. Donc, avec de nombreux jeunes franco-marocains, que je vois d'ailleurs très régulièrement, nous avons créé l'association Génération Diaspora. Et c'est un de nos objectifs, faire en sorte que ces deux jeunesses s'unissent.
On t'écoute religieusement, Ahmed, parce que c'est vraiment assez exceptionnel, et on va revenir là-dessus, alors sur cette association Génération Diaspora, parce que je sais que beaucoup de jeunes du Val d'Oise, notamment un en particulier qui est né à Argenteuil et qui est membre de l'association, s'engage, et cet engagement il est fondamental. Je voudrais saluer quand même les propos que tu as eus pour les maires. Les maires des communes qui sont très utiles, qui sont aussi passionnés, aussi engagés. Redouane en sait quelque chose, il nous en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est main dans la main qu'il faut avancer, travailler et réfléchir, plutôt que de s'inscrire dans des antagonismes comme ça qui ne produisent rien. Voilà. On va marquer une pause musicale. et on reprend tout de suite après.
Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours, the minutes, the seconds, the moments.
Darling, please don't make me wait too long. I wanna love you, babe. Can't you see? It's only you I want, and you I need. Please don't make me wait too long. I wanna love you, babe. Can't you see? It's only you I want.
Bien sur IDFM Radio.
Voilà, de retour sur l'émission Les Voix de l'engagement avec nos invités du jour, Ahmed Gayet, acteur associatif franco-marocain, et Redouane Lazar, un acteur associatif valdoisien qui a pu nous expliquer tout à l'heure bien qu'il mobilisait des équipes autour de lui pour pouvoir accompagner des personnes en grande difficulté à les meubler. Est-ce que tu pourrais nous partager ce que tu observes dans tes actions, etc. Comment tu arrives à être utile pour ces personnes en grande détresse, hein, j'allais dire, pour se meubler. Si tu peux nous en dire un peu plus, Redouane.
Bien sûr. Bah, alors, moi, cet asso m'a, entre guillemets, fait grandir mentalement, parce que j'arrive sur des problèmes, des fois, dans des lieux, dans des circonstances incroyables, parce que à 99%, chez qui on intervient, ils sont fragiles physiquement ou mentalement, et on se rend compte qu'il y a un univers qui est, il y a un monde qui est, qu'on connaît pas si on n'est pas dedans, si on n'est pas sur le terrain, mais qui fait très très peur. Et malheureusement, sans les associations, j'ai l'impression qu'il y a une partie de ces gens-là qui sont oubliés. Donc voilà, donc c'est formateur. Moi, des fois, je me dis entre guillemets de mon côté que j'ai des problèmes, j'ai des soucis et tout, mais quand j'interviens auprès de ces gens-là, bah je repars avec le sourire et je me dis qu'au final tout va bien dans ma vie, il y a beaucoup pire.
Alors tu dis que sans les associations ils sont oubliés, mais en fait c'est la société civile, hein, quelque part, au fond, l'association. C'est une association, c'est un modèle juridique, j'allais dire. Mais en réalité, les gens qui t'entourent, ce sont des gens de la société civile qui ont des métiers, qui ont des familles, qui ont des activités et qui sont sensibles à ton action et te rejoignent justement pour être utiles à leurs voisins, à leurs amis, etc. Puisqu'on a tous autour de nous probablement des gens qui sont en difficulté et parfois qui sont en mesure de le partager, parfois pas, et on le découvre parfois malheureusement tardivement, etc. Mais toi, j'ai l'impression que tu arrives à décomplexer un peu ces sujets-là et à pouvoir arriver à toucher des gens qui rencontrent des difficultés, qui sont en mesure de te le partager et de pouvoir te le dire et de le dire à tes équipes en disant bah moi j'ai un appartement, mais je n'ai pas les moyens de le meubler, je dors à même le sol ou sur un matelas, etc. C'est quand même une force, ça, de pouvoir agréger autour de soi eh bien, des gens qui sont en difficulté, parce qu'on sait que la solitude, eh bien, c'est difficilement dépassable. On sait que lorsqu'on est en grande détresse, eh bien, il y a une forme de culpabilité à la partager, ou une forme de ressenti où on craint l'humiliation que d'aller demander de l'aide, etc. C'est pas toujours le schéma qu'on parfois on nous présente en nous disant que c'est un groupe d'assistés qui n'attend que des solutions gratuites, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça, évidemment, dans la réalité. Et je crois que toi, tu l'as compris et tu arrives quand même à mobiliser des gens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Bah, après, moi, tout ça, je l'ai appris sur le terrain, parce que nous, il y a 4 ans, on intervenait via le bouche-à-oreille chez des personnes en détresse, donc qui n'avaient pratiquement rien chez eux. Hein. Ou alors, c'était infesté de cafards et il fallait tout changer. On intervenait sans assistante sociale, sans conseillère sociale. Donc, nous, on faisait limite de l'ingénierie sociale sur place. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris, alors que ce n'est pas mon métier de base. Hein. Moi, je suis technicien dans les économies d'énergie renouvelable. Mais voilà, j'ai toujours été dans le social de toute façon. Après moi, la force que j'ai et que j'ai toujours eu, c'est que j'arrive à m'adapter à toutes les situations, qui fait que quand j'arrive et qu'une personne est en détresse, voilà, elle est souvent, quand on arrive, les visages sont foncés, enfin sont froids, ils parlent pas beaucoup, ils ont même un peu de crainte. Mais dès qu'on repart, ils ont le sourire, ils veulent nous revoir. Ils reprennent de nos nouvelles, nous reprendre leurs nouvelles, et voilà. Et puis ça fait chaud au cœur, et c'est ce qui nous donne envie de continuer malgré quelques embûches qu'on a eues par rapport aux locaux au début, parce que voilà, on n'avait pas de local, par rapport aux camions, parce qu'on n'avait pas de camion, on prenait nos véhicules perso pour aller à gauche à droite. Donc voilà, cette aventure m'a fait grandir, m'a pris conscience que dans la vie, entre guillemets, il y a toujours pire, et on est de plus en plus fort maintenant, quoi.
Eh ben, écoute, on y reviendra. Merci, Redouane. On reviendra tout à l'heure sur l'aspect technique de ton organisation, parce qu'elle doit être monstre, cette organisation. Mais je voudrais qu'on revienne à Ahmed, qui, je le rappelle, est venu directement de Casablanca, c'est ça, Ahmed?
C'est ça, ouais.
Nous rejoindre ici, parce que c'est aussi Ahmed, et je le connais un peu pour ça, mais c'est un amoureux aussi de la France. Il a grandi tout à l'heure, il le disait, à la Goutte d'Or. Il aime profondément la France et il a servi la France aussi. Hein. Tu peux nous en parler un peu, Ahmed?
Oui, tout à fait. J'étais un enfant de la Goutte d'Or, donc du 18e arrondissement. J'étais très jeune encore. Et dans mon quartier, il y avait deux figures politiques emblématiques. Il y avait le maire du 18e qui s'appelait Alain Juppé, et il y avait le député du 18e qui s'appelait Lionel Jospin.
Ah, des personnages politiques qu'on connaît bien.
Oui. Mon cœur penchant à gauche, je me suis rapproché de Lionel Jospin, je lui ai parlé de notre association, je lui ai dit un petit peu les obstacles que nous rencontrions, les besoins qu'avait la jeunesse du quartier, et je l'ai trouvé très réceptif. Et comme ça, j'ai continué mon bout de chemin associatif jusqu'à ce que Jospin, en 1997, à l'occasion d'une dissolution, soit élu et devienne Premier ministre. avec Jacques Chirac, président, donc c'était une cohabitation. Et j'avais rencontré, grâce à Jospin, une dame magnifique qui s'appelait Martine Aubry, qui s'appelle toujours Martine Aubry, en tant que présidente de la FAS, Fondation Agir contre l'exclusion. Elle a été nommée numéro 2 du gouvernement, chargée de l'emploi, et dans sa besace, elle avait ce qu'on appelait à l'époque l'intégration. Et elle m'a demandé de bien vouloir la suivre au cabinet. Je suis donc devenu son conseiller pendant 5 ans, chargé des banlieues, chargé de l'islam en France, dans les quartiers, chargé de la jeunesse bien évidemment. Et puis au bout de ces 5 ans, lorsque Martine Aubry a quitté ses fonctions ministérielles pour Lille, c'est Elisabeth Guigou, une Marocaine de cœur et de naissance,
elle est née à Marrakech,
qui m'a demandé de la rejoindre à son cabinet. J'ai donc une expérience de cabinet ministériel exceptionnelle, qui m'a beaucoup appris. Je crois que j'ai appris en ces quelques années beaucoup plus que j'aurais pu apprendre en toute une vie. Et lorsque j'ai eu cette envie, lorsque Sa Majesté Mohamed VI est devenu roi en 1999, quelques années après, il y a eu un appel d'air. Et c'était pas aussi flagrant qu'aujourd'hui, mais beaucoup de franco-marocains sont rentrés à cette époque.
Oui.
Et j'ai été parmi eux. Aujourd'hui, c'est courant. Aujourd'hui, le nombre de franco-marocains qui rentrent au Maroc, il est exponentiel. Et j'ai essayé de mettre en pratique là-bas, sur le terrain, avec toutes les différences que cela peut avoir, ce que j'avais appris ici, dans le mouvement associatif, dans le don de soi. C'est pour ça que j'aime bien votre titre, Les voies de l'engagement, parce qu'on peut l'appeler VOIX. Et VOIES, c'est les voix dans tous les
exactement.
Sens. Et si j'ai un message à faire passer, si tu me le permets, Assad,
bien sûr.
C'est de dire à la jeunesse franco-marocaine ici et marocaine au Maroc de s'engager. Rien ne leur apportera plus dans leur vie, en dehors de la vie professionnelle, de leur vie familiale, de leur vie privée, rien ne leur apportera autant que l'engagement associatif. Et c'est quelque part, c'est un dû que l'on rend à la société. Ici, c'est ce que vous devez à votre communauté, la communauté marocaine de France, qui est très, très grande. Et puis, nous, au Maroc, c'est ce que nous devons à notre pays. La population marocaine est extraordinaire et sa jeunesse est magnifique. Et si tu permets ça, je voudrais rendre un grand coup de chapeau aux jeunes engagés dans l'associatif au Maroc, qui n'ont pas les, peut-être j'allais dire, les facilités que vous avez vous ici, les jeunes de Oxygène, de Passagers, Hip Hop Family, Moga Jeune, Caisse Jeunesse. Ce sont des jeunes qui consacrent beaucoup de ce qu'ils n'ont pas, aux autres.
Oui, j'en ai rencontré certains et c'est vrai qu'ils sont admirables en fait d'engagement avec des moyens aussi très limités, ouais. Des résistances aussi parfois avec les présidents de communes, etc. Les choses bougent évidemment, heureusement, mais c'est pas toujours très simple pour eux. Mais il y a beaucoup de volonté de faire la différence,
c'est ça.
Et c'est précieux.
La volonté.
Et je crois que la jeunesse, elle est pas résignée. La jeunesse, au contraire, elle s'entrevoit un avenir plus radieux et du coup s'en donne, et en tout cas cherche à s'en donner les moyens. C'est vrai au Maroc, mais c'est vrai aussi ici. Tout à l'heure, je pense à Eureka, une association de Goussainville, où justement, je crois qu'ils défendent cette idée, c'est-à-dire réussir par le scolaire, etc., tout en s'engageant dans le secteur associatif, parce que ça apporte beaucoup à leur vie scolaire et ça apporte et vice versa. Et je crois aussi que même dans le milieu professionnel, et je parle à ceux qui aujourd'hui sont sûrement à cette heure-là devant leur bureau en train de travailler, que l'engagement associatif peut leur amener aussi beaucoup de choses. Il y a aussi des mécénats dans les entreprises, il faut s'y intéresser. Il y a des dispositifs comme ça qui sont mis en place qui peuvent être très utiles.
Je peux t'ajouter une anecdote, Assad. Au Maroc, des patrons m'ont dit, quand ils recevaient des CV équivalents, ils allaient au bas du CV et ils regardaient engagement associatif. Et à CV équivalent, ils choisissaient celui qui avait eu un engagement associatif dans sa jeunesse.
Tu vois, ça c'est ce que tu dis, et sûrement très vrai aussi ici en France, c'est-à-dire que c'est à deux CV équivalents, une expérience riche sur le plan associatif, on peut se dire quand même que on y gagne en fait en maturité, sûrement, en meilleure compréhension et en empathie des gens. Et je pense dans tous les métiers ça peut être utile, hein, que ce soit, je sais pas moi, commercial,
absolument,
jusqu'à comptable peut-être. Enfin voilà, et donc c'est très précieux. Dis-moi Ahmed. Oui. Tu, à Casa, je te vois déambuler dans les rues de Casa, aller dans des coins où les touristes ne vont pas.
Oui.
Tu vas rencontrer les jeunes les plus en difficulté, tu leur redonnes de l'espoir. Est-ce que tu peux nous l'illustrer ? Moi, je le sais, je sais comment tu le fais et à quel point c'est impactant. Mais est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, nous en parler un peu ?
Je crois que dans notre pays, nous sommes encore en retard vis-à-vis de la reconnaissance qu'une société doit avoir envers sa jeunesse. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais nous n'aimons pas assez nos jeunes. Ce qui fait qu'eux-mêmes ne s'aiment pas et n'ont pas confiance en eux. Donc moi, ce que j'essaie de faire à ma modeste place, hein, je suis qu'un acteur associatif et culturel, c'est les écouter, les aimer, leur donner confiance en eux, leur montrer que c'est possible. Moi, je leur raconte où je suis né, comment je suis né, de parents immigrés, ce que j'ai réussi à faire, et je leur donne des exemples. Non pas des exemples inatteignables. Bon, évidemment, à l'heure actuelle, il y a les exemples des footballeurs qui les touchent, et c'est naturel, ça fait rêver. Mais moi, je veux plus que nos jeunes dans les quartiers au Maroc aient pour avenir, pour image devant eux, les dealers. Je veux qu'ils aient en face d'eux les leaders. Et nous avons dans nos quartiers des talents exceptionnels, exceptionnels. Des chercheurs, des étudiants, des sportifs, des artistes. C'est cela qu'il faut mettre en avant. Et il ne faut pas toujours parler de ce qui va mal. Alors on parle de hooliganisme, oui, délinquance évidemment, comme partout dans le monde. Mais il faut parler de ces jeunes qui réussissent et qui tirent la société vers le haut. Moi, c'est ça, à ça que je crois.
J'adhère à 1000% ce que tu dis et je retiens cette formule. Donnons envie aux jeunes de ressembler à des leaders et non à des dealers.
Ouais.
C'est pas mal comme concept.
C'est excellent.
Voilà. Mais ça, c'est vraiment à retenir, je pense. Merci Ahmed. On reviendra aussi sur Marrakech aussi, avec Caisse Jeunesse aussi, que tu as initié, une association que t'as accompagnée, etc. et qui gravite autour de Marocain Pluriel, je crois.
Oui.
Redouane, je voudrais qu'on parle rapidement de tes expériences médiatiques avec ton association Monsieur Solidaire. Ça t'a dépassé, tu t'y attendais pas. Hein, je le dis avant que tu le dises parce que on l'a partagé, mais tu t'y attendais pas et c'est vrai que tu t'es retrouvé propulsé sur les plateaux de télé de BFM TV, d'autres chaînes, etc. Je crois qu'il y a que CNews qui t'a pas invité, il me semble, mais,
ouais, mais voilà. J'étais pas dispo.
Voilà, t'étais pas dispo. On aura compris. Et du coup, si tu peux nous partager un petit peu ton ressenti, parce que toi qui es de nature discrète, en fait, t'as réalisé que l'engagement, eh bien, ça amène aussi à avoir une visibilité, une exposition publique. Et je voudrais que tu rassures peut-être ceux qui ne l'imaginent pas et qui voudraient s'engager associativement. On a deux voies, on peut tout à fait rester très discret, mais ce n'est pas non plus gênant d'être exposé non plus, si tu peux nous le partager.
Avec plaisir. Alors moi, je pense que je suis... Je suis pas un modèle, mais je fais partie des personnes qui ont ouvert une association il y a 4 ans. Je connaissais rien du tout. Voilà, moi j'étais beaucoup sur le terrain, mais niveau associatif, tout ce qui était documents, je connaissais pas. Donc moi, je suis vraiment parti de la base et de mon côté, je voulais être, comme tu as dit, je voulais être discret. C'est-à-dire que même quand j'emmenais mes enfants à l'école, je me rappelle à Vauréal, le concept avait bien pris déjà dans Vauréal et les parents parlaient entre eux qu'il y avait une personne sur Facebook qui avait fait un concept de s'échanger des dons. Franchement, c'était top. Moi, j'étais à côté. Bon, je disais pas que c'était moi, mais ça me faisait plaisir. Et en fait, quand j'ai voulu aller plus loin, parce que j'ai vu que ça prenait vraiment dans toute l'agglo, dans les 13 villes, on m'a fait comprendre qu'à un moment donné, c'est bien d'être discret, mais tu vas devoir te montrer, peut-être même faire quelques médias pour avoir ce que tu veux, voilà, pour expliquer à toute la France, même ton concept qui est pour eux pour moi aussi, hein, juste incroyable, parce que en France ça n'existe pas. Donc on est la seule association à faire cela. Et j'ai dit bon, pourquoi pas. Et moi je me suis entraîné et tout. Et puis voilà. Bah après on a fait le Parisien. Le Parisien nous a fait confiance en premier. Après le Parisien on en a fait d'autres. Grâce à ça on a pris en crédibilité. Et la France entière, même dans d'autres pays, hein, qui suivent les médias français, m'ont contacté pour me dire voilà, ce que tu fais c'est bien, si tu as besoin d'aide on est là pour t'aider. Et puis voilà. Donc nous grâce à ça on avait quelques embûches entre guillemets sur les véhicules et sur les locaux. En quelques mois c'était réglé. Donc moi qu'est-ce que je peux dire aux personnes qui souhaitent se lancer comme moi dans des projets ambitieux associatifs, c'est de croire en ses rêves, hein, comme tout, hein, ne jamais lâcher, parce que franchement d'où je viens c'était honnêtement très très compliqué, parce que jusqu'à stocker des frigos devant sa télé ou autre, hein, pour des personnes qu'on ne connaît pas au final, mais on sait qu'ils sont dans le besoin. Moi c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, quand j'ai un truc en tête et que je veux, à 90%, à 99%, je mets les moyens pour l'avoir. Et puis voilà, au final, ça se concrétise. Et là, aujourd'hui, je suis fier de te dire que on a des locaux dans 6 villes du Val d'Oise, donc voilà, un peu partout. Et prochainement également dans d'autres départements via des partenariats avec des bailleurs sociaux. Et puis maintenant, on intervient de façon professionnelle, vu qu'on a pris en crédibilité et tout. On a fait des partenariats avec des bailleurs sociaux, avec la bailleurs sociaux, la CAF, la préfecture, qui fait que maintenant, quand on intervient chez des personnes, donc il y a une assistante sociale qui nous accompagne. Et puis voilà, elle nous présente le ou la locataire, donc qui est en difficulté, que ça soit physique ou psychologique. Et puis voilà. Et de ce fait, nous, on lui installe, on l'aménage de A à Z, tout ce qu'elle a besoin. Psychologiquement, elle est très très contente de nous voir. Elle repart avec le sourire. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, on garde contact. Et voilà. Franchement, c'est une aventure qui ne fait que commencer.
Qui va sûrement aller très loin. Parce que si j'ai souhaité t'inviter, Redouane, c'est parce que aussi je suis fasciné par cette association, par ton engagement et particulièrement par ce que je prévois, enfin ce que je projette pour cette association. Je ne peux qu'imaginer un déploiement sur l'Île-de-France, tellement les besoins sont importants.
Et au Maroc.
En tant que franco-marocain, c'est un projet que j'aimerais aussi exporter au Maroc. Après, je vise toute la France, hein, parce que...
C'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire que ces besoins-là, ils existent
partout,
sur l'île de France,
partout.
En milieu rural aussi. Là où en milieu rural, on oublie souvent le milieu rural, mais c'est un milieu où il y a d'autres difficultés, notamment géographiques. On est très loin d'un hôpital, très loin de pouvoir se meubler très facilement, avec des difficultés de mobilité physique, hein, chez les individus, mais aussi moteur. C'est-à-dire que c'est difficile aussi de pouvoir aussi s'approvisionner, d'avoir un camion, etc. Et toi, je pense que tu touches à un besoin qui est encore mal couvert ou peu couvert. Et c'est pour ça que je ne peux que t'imaginer un destin national, j'allais dire.
C'est gentil.
Pour ton association. Et on voit bien que les donateurs sont conscients de ça, sont sensibles à ça. Et savent l'impact qu'ils auront en te donnant des moyens. Et je sais le personnage que tu es, et je peux que les encourager ici à l'antenne à t'en donner encore davantage.
Je te remercie.
Pour pouvoir couvrir les besoins qui sont très importants. La population, elle est une partie d'entre elles paupérisée, c'est vrai, mais elle est surtout en difficulté de trouver des interlocuteurs fiables, solides et capables de répondre à leurs besoins. Et tu en fais partie et bravo.
Je te remercie.
Ahmed, toi aussi, tu réponds à des besoins. Alors on fait le parallèle, hein, on navigue depuis tout à l'heure entre la France et le Maroc.
Beaucoup de choses qui se ressemblent.
Exactement. Et puis tout à l'heure, j'ai pu évoquer en aparté, hors antenne, avec toi, la question d'aliments, de nourriture, etc., que tu pouvais organiser de manière très puissante. Moi, j'ai pu voir sur tes réseaux sociaux de la distribution de nourriture importante. Tu es même allé jusqu'à distribuer de l'eau pour les policiers.
Oui. En temps de canicule.
Exactement, en temps de canicule, voilà, qui sont. Voilà, et je trouve que c'est assez extraordinaire parce que il y a une forme d'apaisement comme ça dans les relations institutionnelles entre la société civile, les services de police, les services de mairie, etc. Plutôt apaisé. Alors évidemment, c'est pas parfait hein, pour les esprits chagrins qui pourraient se dire. Mais
bien sûr.
Dites donc, cette émission, elle est très édulcorée.
Non,
tout le monde est parfait.
Pas du tout.
On est conscient. On est tout à fait conscient de ce qui va moins bien.
Oui.
Mais je pense que c'est aussi bien de dire ce qui va bien et
bah
ce
oui.
qui fonctionne bien. Et je pense que c'est une approche intéressante aussi pour résoudre certaines difficultés. Et là, toi, si tu pouvais nous parler un petit peu de la naissance, un peu de ces de ces actions et peut-être d'autres qui m'échappent aujourd'hui. Hein.
Tout à fait. Moi, je vais essayer d'aller par l'anecdote.
Oui.
C'est par là que par l'exemple. Tu sais, vous savez, voir des jeunes qui sont en général à 20 ans, à 18 ans, des rebelles, c'est bien d'être rebelle à 20 ans. Je vais prendre l'exemple de Marrakech. Les jeunes de Mogadjen et les jeunes, non pardon, les jeunes de Maroc Jeune, qui au départ étaient une association très branchée culture, très branchée proximité, parce que je crois à deux mots, je suis sûr que Redouane va m'approuver, c'est la proximité et le terrain.
Absolument.
Je crois absolument à ces deux mots-là. Eh bien, ces jeunes de Maroc Jeunes, voir, aller distribuer des bouteilles d'eau, vous savez, aux policiers qui sont au rond-point, qui sont en faction, qui sont sous le soleil, à Marrakech, Dieu sait que le soleil tape.
Marocains ou pas marocains, même les Français qui ont été touristes au Maroc l'ont vu. L'ont vu.
Sincèrement, c'est une image qui est frappante. Et ça apaise. Les relations entre la police et la jeunesse sont de par nature conflictuelle. Mais quand un jeune de 18 ans s'en va voir le policier qui est au carrefour de son quartier et lui offre une bouteille d'eau, des deux côtés, il y a un élément qui se déclenche. Et quand je parle de proximité de terrain, il y a ça, en temps de canicule, ne pas oublier les policiers, ne pas oublier aussi les SDF. Pensez aux animaux. On fait beaucoup de procès au Maroc en ce moment sur les animaux errants.
Sur les chiens, je crois.
Oui. Eh bien, nous, dans nos quartiers, on donne à boire et à manger aux chats et aux chiens. Et le mois de Ramadan, c'est un mois de piété, de solidarité par essence. Eh bien, nous faisons appel aux gens qui sont plus aisés que nous pour qu'ils nous offrent des denrées alimentaires. Et chaque mois de Ramadan, nous organisons ce qu'on appelle l'opération Bab Ramadan, la porte du Ramadan. Parce qu'on se refuse à aller offrir des paniers de Ramadan à des personnes en faisant des photos. Montrer les bénéficiaires, c'est indécent. Ça ne les respecte pas. Donc nous, on prévient la famille chez qui on va déposer le panier de Ramadan avec les denrées alimentaires de base, hein, le riz, les lentilles, le lait, le miel. Et on dépose le panier à la porte de leur domicile. Ce qui fait que personne ne fait de photos de cette famille.
C'est ça qui est... Il y a le respect des gens.
Ben
et,
oui.
et il n'est pas question d'utiliser d'une quelconque manière la détresse de ces personnes. Et ça, je te le dis franchement, bravo.
Ouais, bravo.
Parce que je te dis, c'est une vraie rupture avec ce que j'ai pu aussi parfois voir, notamment au Maroc, des associations qui pouvaient... un peu maladroitement sûrement, hein, mais piétiner la dignité des gens en les exposant malgré eux et en leur tendant un repas ou autre chose, ou même de l'argent parfois, et en disant, bah, vous voyez à quel point on est généreux, etc. Et ça, c'est triste de voir ça parfois. Ça, c'est plus le cas, mais ça, moi, je te parle, tu sais, à l'époque des amicales, etc.
Ah oui, bien sûr. c'était voilà, leur raison de vivre.
C'est ce que j'ai connu.
Ouais.
Et toi, tu as t'es venu amener aussi un peu de modernité et de concept.
Ça m'a pas fait que des amis. Hein.
Alors,
tu dois t'en douter.
Alors, à ton niveau, toi, Ahmed, d'engagement, j'imagine que ça doit pas être simple. Ça doit pas être simple parce que il y a l'association et la volonté d'impacter. Et puis il y a un parallèle parfois très court entre la volonté d'engagement et puis la volonté cachée de, d'utiliser cet engagement comme un marchepied pour sa carrière personnelle ou autre chose. Et ça, c'est très malheureux, très triste de pouvoir...
C'est un dévoiement.
On est témoin parfois, parce que moi je le devine parfois, je l'ai deviné parfois, je parle du Maroc, hein, où c'est parfois très triste, mais... Tu n'as jamais dévié de ton cap. Tu as toujours été tel que je te connais. Ça fait 25 ans que je te connais. Je ne t'ai pas vu bouger d'un iota dans ton. Et je suis certain que tu as refusé des postes prestigieux dans ton parcours pour rester connecté avec le terrain.
Ouais.
Et je te dis bravo pour ça, Ahmed. Ouais. Parce que c'est pas toujours, on n'est pas toujours assez solide ou outillé pour pouvoir refuser des tapis rouges. Mmh. Et parce qu'on peut, voilà, on peut très vite aussi se perdre là-dedans.
Mais rien ne remplace le sourire d'un enfant quand on lui offre un cartable.
Ah bah oui.
Rien ne remplace la poignée de main d'un jeune de 20 ans qui sent qu'il a progressé dans sa personnalité, qui s'est épanoui. Rien ne remplace la bénédiction d'une maman qui est seule, qui élève ses gosses, à qui on offre un panier lors du mois de Ramadan. Ça n'a pas de prix. Moi, c'est ça ma reconnaissance.
Tu sais, des fois, moi, ce qui me fait bizarre, c'est quand, vu qu'on aide des personnes tous les jours, donc nous, c'est du lundi au lundi, l'association, et ça peut aller jusqu'à 2h du matin. Ouais. Bah, ça nous arrive, enfin, moi, ça m'arrive, des fois, je marche dans certaines villes et une personne vient me voir avec ses enfants et me dit ah, bah, bonjour, encore merci à vous pour les lits, franchement, mes enfants, ils sont contents, nanana. Mais moi, je ne me rappelle plus. Tellement on aide, je ne me rappelle plus de cette dame.
C'est bien. C'est ouais. bien, mais elle se rappelle de
moi. Elle se rappelle de moi et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et bah après, moi, ça me touche. Hein. Et
bah oui.
Ça me touche. Mais effectivement, quand il y a des enfants, ça, en plus, c'est ça qui touche parce que j'en ai également. Et non, franchement, c'est top. Et j'aimerais revenir sur les bénévoles. Alors, moi, il faut savoir que mes bénévoles les plus actifs depuis 4 ans, et bah, ce sont les jeunes qui tiennent les murs.
Voilà.
Parce que, bon, ils tiennent les murs, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Même ils trafiquent, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Mais. Ils ont, ça reste des humains. L'humain est solidaire.
La valeur de la solidarité.
Voilà. Même le plus cruel, en lui, il aura toujours un petit peu de solidarité. Après, ça dépend comment est-ce qu'on l'aborde. Donc moi, ce que je fais, après moi, je m'adapte à toutes les situations. Donc moi, quand j'arrive avec un camion plein, donc une commode, une télé, donc pour une famille ou une femme victime de violence conjugale, bah, dès que je vois qu'il y a des jeunes, je vais les voir, je me présente. Voilà, je leur dis ce que je fais, pour qui. Sans donner le nom, hein. Et bah, direct, ils kiffent. Hein. Ils me disent, si t'as besoin, je leur demande même pas de m'aider, hein. Je leur dis juste ce que je fais.
Ils proposent.
Et direct, ils me disent, bah, si t'as besoin, on vide le camion avec toi.
Sympa.
Et voilà, ça va de 14 ans à même 35 ans. Mmh. Et au final, bah, ils m'aident et j'ai pratiquement rien porté. Et ils font ça avec plaisir. Et quand j'interviens dans le même quartier, pour une autre personne, bah, c'est encore les mêmes jeunes qui m'attendaient et qui me disent, voilà, qui courent vers mon camion, et ils savent que c'est le mien, ils le déchargent et ils font ça avec, ils font ça avec plaisir.
Ça
ils sont contents.
Eux-mêmes.
Voilà. Et dès qu'ils redescendent, bah, je revois plus les mêmes personnes, en fait. Je revois des personnes souriantes. On sent qu'ils ont fait quelque chose de bien et ils ont plus le pied sur le mur.
Est-ce que tu crois pas que ces jeunes que tu décrivais comme tenant les murs, etc., en tout cas une grande oisiveté au quotidien, et puis pour certains qui peuvent être dans du trafic, est-ce que tu ne penses pas que justement, à la faveur de tes actions qu'ils accompagnent avec toi, est-ce que justement ça ne pourrait pas les conduire finalement à sortir de cette oisiveté et peut-être même des trafics.
Absolument.
Est-ce que tu as des témoignages comme ça de jeunes qui pourraient finalement sortir de tout ça parce que découvrant le monde associatif et voulant peut-être y travailler ou s'engager ?
Bah, moi, pour l'histoire, j'étais intervenu dans une cité dans 93. Pareil, hein, c'était une famille assez compliquée, il fallait ramener pas mal de choses, il n'y avait pas d'ascenseur. Donc là, pareil, j'ai croisé des personnes en bas de l'immeuble hein, qui habitaient là. Je leur ai demandé, moi je fais ça pour une personne qui habite dans votre bâtiment, qui est en détresse totale. Et donc direct, ils m'ont dit, nous on peut t'aider sans problème, même si t'es pas du quartier, parce que c'est un quartier assez sensible. Mais je m'adapte. Et une fois qu'ils m'ont aidé, on a échangé les numéros. et une personne, bon, on sentait que c'était une personne, voilà, qui faisait pas grand chose dans sa vie, me contacte et me dit, voilà, Redouane, bravo, tu reviens quand tu veux, et j'aimerais que tu m'expliques comment est-ce qu'on ouvre le même concept dans le 93. Donc, Tous Solidaires, par exemple, 93. Oui. Donc, l'ouverture d'une antenne ou autre. Hein. Et bah, ça m'a touché parce que, au premier abord, quand je l'ai vu, je me suis dit, lui, jamais il va m'aider de 1, et de 2, jamais dans sa tête, il va se dire pourquoi pas créer voilà, cette chaîne de solidarité et tout. Et au final, voilà, moi, ça m'a ému parce que je me suis dit, c'est parce qu'il m'a aidé et qu'il a vu ce que je faisais pour une personne qui habite dans son bâtiment, qui s'est dit, bah, je vais faire pareil. Donc, en lui, ça a peut-être déclenché quelque chose qui fait que, quand on le voit comme ça, on se dit que c'est une personne qui tient les murs, qui deal ou autre, hein. Alors qu'en fait, lui, il veut changer, je pense. Mais il avait besoin que je vienne le voir, un inconnu, hein, je suis un inconnu, que je vienne lui montrer ce que je fais, qu'il vienne m'aider, comme si je lui tenais la main, en fait.
C'est ça, c'est le déclic.
Voilà, ça a été le déclic.
C'est le déclic.
Et franchement, c'est top. Et c'est une personne avec qui, aujourd'hui, je suis en contact et je l'aide à monter une antenne dans 93 parce qu'il y a énormément de besoins.
Mesdames, messieurs qui nous écoutez, j'espère que ces mots que vous venez d'entendre d'Ahmed Gaillette et de Redouane Lazare vous ont donné envie, peut-être, de vous engager auprès d'une association. Vous en aurez toujours autour de vous, dans votre localité. Il suffit simplement de taper sur Internet association et d'ajouter votre commune et vous en trouverez de nombreuses dans lesquelles vous pourrez aussi prendre du plaisir, vous engager. Et pour ceux qui sont sûrement peut-être dans une forme de routine quotidienne qui les amène petit à petit, sans parfois peut-être en prendre conscience, à s'isoler, eh bien, vous pouvez y trouver des amis fidèles, des rencontres extraordinaires. Je suis dans l'associatif depuis plus de 25 ans et je peux vous dire qu'on peut même se marier, hein, dans le milieu associatif.
Tout à fait.
Donc voilà, je vous invite à vous engager. Ça donnera une petite saveur, une petite dans votre quotidien, en tout cas intéressante. Et dans les yeux de vos enfants, vous verrez que votre engagement, il sera valorisé. Alors on va faire une pause et on reprend tout de suite après, parce que je serais curieux de savoir comment la famille de Redouane, eh bien, vit l'absence du papa pour les enfants et comment madame gère son absence aussi. Voilà, à tout à l'heure et on fait une pause.
IDFM 98FM.
Nous revoilà sur l'émission Les Voix de l'Engagement avec Ahmed Gaillette, acteur associatif franco-marocain, et Redouane Lazare, un acteur valdoisien qui est engagé sur le Val d'Oise, mais pas que, sur l'Île-de-France également. Rapidement, un petit rappel quand même, je voudrais parler d'agenda là. Le 20 novembre, à Saint-Ouen-l'Aumône, un ciné-débat organisé par le groupe SOS et qui va rassembler de nombreuses associations autour du dernier documentaire qui a été primé à quelques festivals. Un documentaire assez exceptionnel qui va faire un peu la synthèse des actions du groupe SOS, mais qui rappelle surtout l'activité associative en général. Et toutes les associations, évidemment, sont invitées le 20 novembre au cinéma Utopia à Saint-Ouen-l'Aumône à 20h. Vous êtes les bienvenus. Et le 20 novembre, petit rappel aussi, c'est la date anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont le Maroc est signataire. Le Maroc a signé en 90 et ça a été ratifié en 93 au Maroc. Le 20 novembre, on fête la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est une date quand même importante, une date anniversaire importante. Et en parlant d'enfants, Redouane, je le disais avant la pause, comment vit ta famille cet engagement? Tu le rappelais tout à l'heure, c'est du lundi au lundi et c'est parfois des journées entières et jusqu'à très tard la nuit. Comment vivent ça en fait? Comment tes enfants vivent ça?
Bah, très simple, hein. Moi depuis le début de l'aventure, ma femme m'épaule. En gros, si elle serait pas là, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps parce que je reste un humain quand même, hein. C'est-à-dire que le mental, échec sur échec, il commence à prendre un coup, mais grâce à Dieu, elle a toujours été là pour me dire non, continue, ça va marcher. Donc ma femme est toujours très proche de moi et elle fait même partie des membres des bureaux, du bureau de l'association. Et Donc non, par rapport à ça, c'est top. Dès que j'ai un événement, elle m'aide, que ça soit dans la communication ou autre, franchement, elle met son pied à l'étrier. Et concernant les enfants, bah, grâce à l'asso, j'ai pu aussi leur inculquer des valeurs de solidarité. Et moi, à chaque intervention, ils viennent avec moi. Donc, ils sont mes enfants, tout le monde les connaît. D'accord. C'est qu'à chaque fois que je vais quelque part, si j'ai la possibilité, s'ils sont pas à l'école, ils viennent avec moi, ils sont contents, ils m'aident. Ils voient d'autres enfants qui, eux, sont dans le besoin. Donc, ils voient même la différence. Ils se disent, au final, je me plaignais, mais au final, je suis pas dans le besoin. Mm. Parce que là, ils voient vraiment la réalité en face. Mm. Donc, un enfant qui a pas de lit. Donc, voilà, mon fils, il rentre chez lui, il a un lit. Oui. Et donc, il se dit, ouais, bah, au final, papa, je suis désolé. On manque de rien, quoi. Et donc ça leur apprend aussi pas mal de choses. Moi, je le vois dans les yeux de mes enfants. Ils ont vachement évolué depuis l'association. Donc moi, j'ai 3 enfants, bientôt 4. Et merci. Alors,
sans vouloir être intrusif, mais ouais. Ta femme, comment elle vit ça? Peut-être que c'est la 2e ou la 3e aujourd'hui.
Enfin, femme
hein okay.
Non.
C'est toujours la même. C'est la première.
Ils vont foutre le bazar dans ton
cou. Non.
Elle supporte ça. Elle arrive à voilà.
Bah, je crois qu'elle m'aime trop. Mais non. Bah après, c'est c'est vraiment un projet qu'on a monté ensemble. Donc elle est vraiment aussi dans la solidarité. Hein. Ma femme est très très.
Voilà le secret de la réussite.
Bravo. C'est ça aussi. Hein. Bien sûr. Comme je dis toujours, sans ma femme, j'aurais déjà arrêté. Et à l'heure d'aujourd'hui, hein, même encore aujourd'hui, elle est toujours là. Elle me soutient, elle m'épaule. Bravo, exactement. Donc je suis très très content. Je la félicite le plus souvent possible. Et puis voilà. Et puis même par rapport à mes enfants, franchement, ou ne serait-ce même que des membres de ma famille, quand ma mère me dit « je suis très, très fier de toi pour ce que tu as fait », moi, ça me suffit.
Ah, ça, la bénédiction de la maman.
Ah bah moi, ça me suffit. Même à l'extérieur, quand souvent on me dit... bien sûr que quand je vais au cinéma ou autre et que je croise des personnes qui me suivent sur les réseaux mais qui ne m'avaient jamais vu, ils me disent « ouais, t'es un héros, franchement, c'est top ce que tu fais, c'est juste incroyable, nanana ». Donc ouais, je leur dis merci, mais à partir du moment où effectivement on a la bénédiction de la mère et qui dit que je suis un héros, ça me suffit.
Exactement. Comment tu fais pour pas prendre le melon justement quand on te dit que t'es un héros, quand on te...
Mais il a le melon.
Non. Bah parce que je suis quelqu'un, je suis comme ça en fait. Alors je suis pas timide par contre, mais je suis quelqu'un de humble. Donc ça fait partie de mon éducation. Mes parents le sont aussi, mes frères aussi. On est 5 garçons. Et on est tous pareils, on est humbles et on y arrive. Ben en oui, étant humble, on y arrive. Ça met un peu plus de temps, parce qu'on n'est pas des menteurs et tout. Mais on y arrive. Et puis au final, grâce à ça, bah, le feeling passe partout, même auprès de professionnels. Parce que le concept était simple, c'était qu'entre particuliers, on se fait des dons pour les personnes qui ont besoin. Donc pour éviter la surconsommation, pour éviter les encombrements et tout. Et grâce à... Peut-être le fait d'être humble, je sais pas, mais maintenant j'arrive à me fournir entre guillemets dans les magasins. Donc en gros maintenant j'arrive à déposer des choses neuves chez les personnes qui ont besoin. Parce que quand je me présente dans des magasins, dans des commerces ou chez des professionnels, bah je pense que la première chose qu'ils voient en moi, c'est que le fait que je sois humble et que je sois en fait je suis simple. Je mets des petites chemises à fleurs alors qu'il pleut.
Mais... Tu ressembles à Magnum là un peu là, avec ta chemise hawaïenne.
Ouais, non mais après je suis comme ça. Je suis pas dans, j'ai pas une grosse voiture. Enfin je suis pas dans le tapal. Je me fais plaisir, mais on est dans les gens.
Mm. Bravo. Merci. Ahmed.
Oui.
Même question. Oui. Comment tu fais justement pour rester justement dans cette humilité qui te caractérise de toute façon, parce que je pense qu'il y a aussi des traits de personnalité comme ça qui nous accompagnent et on peut pas les défaire. Mais comment tu fais justement pour pas céder, je vais prendre une expression très française, hein, aux ordres de la République.
Oui. Bah, écoute, d'abord je le dois à Walid. Hein. C'est elle qui m'a élevé comme ça, qui a toujours été fière de moi. Aujourd'hui, la Hamas, elle a disparu, mais je sais qu'elle veille. Elle veille de là-haut. Et puis, la modestie, tu l'as ou tu l'as pas. Quand tu travailles auprès de la population la plus démunie, quand tu travailles auprès de la jeunesse, quand tu te sens en phase avec eux, quand tu sais les conditions difficiles, souvent, dans lesquelles ils vivent, comment veux-tu ne pas être modeste, humble, et même quelque part te dire que tu as de la chance par rapport à toutes cette population qui vit des conditions bien plus difficiles. Mais moi, par contre, j'ai pas eu ta chance, Erdouane. Mon couple a pas résisté. Mais c'est aussi la vie.
C'est vrai que ça demande du temps.
C'est aussi la vie. Et moi, au Maroc, je pense qu'ici aussi, c'est pareil. Les femmes sont très investies dans la vie associative, dans la société civile. Très, très investies. Elles font beaucoup de choses. Mais je voulais vous dire, là, je m'adresse aux franco-marocains qui vivent ici. Moi, je suis parti depuis plusieurs années. Je vous trouve admirable. Vraiment, la jeunesse franco-marocaine est exceptionnelle. Exceptionnelle. Cette faculté que vous avez de rester attaché à votre pays d'origine, cette façon que vous avez d'utiliser le soft power, la culture, le sport, pour toujours, quelle que soit votre implication, faire briller aussi le pays d'origine. Vous ne l'oubliez jamais, ce cordon ombilical qui demeure. Sa Majesté vous une grande attention. Et les organisations qui sont censées représenter les MRE vont très rapidement évoluer.
Et tu peux nous en parler rapidement, c'est-à-dire qu'on entend dire effectivement que ces représentations-là vont évoluer, mais je suis sûr que certains de nos auditeurs seraient intéressés de comprendre dans quelle temporalité ça va se renouveler, etc. Est-ce que les entités elles-mêmes vont disparaître pour laisser place à d'autres et comment elles vont être composées?
Alors, Sa Majesté a annoncé la création d'une fondation Mohamedia qui va être censée regrouper un petit peu tout ce qui se faisait jusqu'à présent, mais de façon décousue ou chacun dans son coin, pour essayer d'avoir une politique définie, ciblée envers la communauté marocaine de l'étranger en général. Moi, je milite, je me bats pour que vous, les jeunes MRE, vous ayez la part du lion dans ces instances. Il faut tourner une page. C'est à vous maintenant de vous assumer, de prendre en main les choses de la communauté de l'étranger. Je crois beaucoup en vous. Assad, je sais ce que tu fais, je sais d'où tu viens. Je te connais depuis assez longtemps. Redouane, que j'ai découvert... qui est exceptionnel. J'ai rencontré tous ces jeunes de génération diaspora, tous exceptionnels de Paris, de Bordeaux, d'Avignon, de Clermont-Ferrand. Et je voudrais vous citer deux jeunes qui, pour moi, sont l'exemple type de la nouvelle génération. Et je les encourage à devenir des images valorisantes, des repères identitaires pour les jeunes, comme on dit, des banlieues, même si je déteste ce mot. Ils s'appellent Iliane et Mohamed. Ce sont des jeunes étudiants brillants.
Iliane Berhadi,
oui.
qui a HEC aujourd'hui.
Oui. Et qui ont créé un média digital exceptionnel.
TFT Maroc.
TFT Morocco.
Morocco.
Ah, franchement. Et ils ont réussi, eux, ce qui est mon rêve, unir la jeunesse de France, la jeunesse marocaine de France et la jeunesse du Royaume par leurs publications. Franchement, un jour, invite-les, Assad, tu auras...
Ils sont invités, d'ores et déjà. Okay. Ils sont invités, je compte sur toi pour leur relayer l'invitation. Et je serai heureux de les recevoir ici, puis qu'ils me parlent un petit peu de leur aventure. Mais surtout, ce que je vois chez eux aussi, ce sont aussi des exemples de... Pour reprendre ta formule, où tu essayes, toi, au quotidien, de donner, d'inspirer des leaders et pas des dealers, eh bien, tu vois, je pense que ces jeunes-là, notamment Iliane Berhadi, qui a grandi à Argenteuil, qui est à HEC aujourd'hui, qui a essayé de faire et qui fait des études brillantes, et c'est un modèle aussi de référence pour beaucoup de jeunes ont envie de réussir, parce qu'il faut se dire que les jeunes n'ont pas envie de l'échec, ils le redoutent surtout, et ils ont envie de réussir, et je pense que ce sont justement ces jeunes-là qu'il faut mettre en avant. Tu le fais, toi, très bien. Tu es en collaboration avec eux étroitement.
Je les aime beaucoup.
Et bravo pour ce qu'ils font, parce que j'ai pu voir dans un de tes posts les résultats de leur création, TFT Morocco, qui dépasse toutes les attentes, puisqu'ils sont au-dessus de médias historiques, même, je crois, au Maroc, sur les réseaux sociaux.
Tout à fait.
Bravo à eux. Et on voit bien que des talents chez les jeunes, il y en a beaucoup. Et il faut simplement peut-être les mettre en lumière et leur donner un petit coup de pouce, parce que la compétence est là.
L'excellence est là. Ouais. Mais que veux-tu, quand il y a ce qu'on appelle des chaînes info qui, du matin au soir, matraquent cette jeunesse en la stigmatisant, en l'accusant de tous les maux, il est évident que c'est difficile C'est humainement difficile. Heureusement qu'il y a des émissions comme la tienne, heureusement qu'il y a QFT Morocco, heureusement qu'il y a des associations, Redouane, qui apportent une lueur et un éclairage à cette jeunesse. Aucun média ne parle de ça.
Eh bien là, on t'écoute sur toute l'île de France. Hein. Il y a 11 millions quand même de Français sur l'île de France. Ouais. T'écoutes sur toute l'île de France. Tu peux tout à fait. Tu seras sûrement entendu. Et j'espère que beaucoup de jeunes et de moins jeunes entendront vos témoignages à tous les deux. Et que. En espérant que ça les inspire aussi pour eux-mêmes s'engager. Oui. Parce que le bénévolat, c'est-à-dire l'engagement associatif. Il a besoin d'énergie, il a besoin de d'individus qui se mobilisent.
209.
209. Et on a absolument besoin de gens qui puissent nous rejoindre, quelle que soit leur origine, quel que soit leur métier. N'importe qui peut aujourd'hui aller frapper à la porte d'une association. Il ne sera accueilli que les bras ouverts. Avec un tapis rouge, je vous assure, vous serez toujours très bien accueilli dans n'importe quelle association de France. On va marquer une petite pause musicale et on va reprendre pour conclure l'émission. I'm gonna fight them off. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back.
Écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Nous revoilà sur l'émission Les Voix de l'Engagement. On est lundi et on a la pêche malgré tout. On a Ahmed à nos côtés, Ahmed Gayet, qui est un acteur associatif franco-marocain qui nous vient directement de Casa et qui nous a longuement partagé son expérience associative au Maroc, mais aussi ses actions en France. Hein. La dernière action que j'ai en tête, c'est un ftour pluriel assez exceptionnel à Garges-lès-Gonesse. Où Ahmed, tu as rassemblé énormément de personnalités associatives, politiques sur la ville de Garges-lès-Gonesse, mais aussi tu as fait de l'interreligieux puisque tu as reçu des imams, des rabbins, des membres de
du clergé,
etc. Et tout s'était rassemblé sur un même événement et en portant des messages de vivre ensemble assez extraordinaires. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement?
Voilà, le Ramadan dernier, nous fêtions les 15 années, l'anniversaire de 15 années de ce qu'on a appelé, nous, le ftour pluriel. C'est-à-dire que depuis 15 ans au Maroc, chaque mois de Ramadan, nous organisons une rupture du jeûne, réunis autour d'une même table, des Marocains musulmans, des Marocains juifs, des chrétiens, la jeunesse, des artistes, des sportifs et des diplomates, des ambassadeurs de très nombreux pays, qui est d'ailleurs honoré par la présence d'un conseiller du RORA, qui est M. André Azoulay. Et nous réunissons à Casablanca environ à chaque fois 300 convives. Et le but, c'est ça. C'est montrer que... Alors, nous, on dit... on partage le kso. On met la main dans le même plat de couscous. Chez les chrétiens, c'est le partage du pain. Chez les juifs, c'est le partage du sel. Bref, le symbole est là. Et cette année, pour le 15e anniversaire, avec toi d'ailleurs, Assad, nous avons organisé le ftour pluriel parisien à Garges-lès-Gonesse. Et c'était un grand moment, vraiment, avec la présence de notre ambassadeur, Samira Sitael, chez le maire, M. Jiménez, qui nous avait offert une très belle salle. Donc c'est un grand moment. On prépare déjà le prochain. Et si vous permettez, je voudrais raconter une anecdote. Parce qu'il y a très peu de pays aujourd'hui où on peut organiser ce genre de cérémonie, d'événement qui réunit les trois religions. Je voudrais vous parler d'un jeune, Zacharia, que j'ai connu quand il avait 16 ans, qui aujourd'hui est devenu un jeune adulte, il doit avoir 25 ans. Et nous profitons au Maroc des fêtes religieuses pour réunir musulmans, juifs et chrétiens. Et lors d'une fête de Noël, nous avions décidé de demander aux mamans de confectionner des bûches que nous avions appelées les bûches de la fraternité et aller les offrir dans les églises, notamment aux jeunes subsahariens, étudiants qui ont très peu de moyens, ils sont loin de leur famille. Et j'avais demandé à un des jeunes d'Herb Sultan, Zacharia, de venir avec nous. Et dans sa naïveté, mais très sincère, il me dit « Mais Ahmed, si je rentre dans une église, quand je sortirai, je ne serai plus musulman. » J'ai failli éclater de rire.
Ça me fait penser au film de Gad Elmaleh où on lui fait la même remarque.
Ta foi, c'est ça? Tu penses que parce que tu franchis une porte d'un lieu de culte qui n'est pas une mosquée, tu ne seras plus musulman? Je lui dis « Écoute, viens, tu verras bien. » Et il est venu. Il a tellement aimé qu'il est devenu un pilier de Marocains pluriel. Et je peux dire que je pense même qu'il est encore plus musulman qu'il ne l'était. Il s'est ouvert à l'autre, il a compris autrui, et c'est le propre des religions. On s'adresse tous au même Dieu. Mmh. Donc, c'est la méconnaissance qui fait du mal.
L'ignorance.
L'ignorance, mmh. La peur. Et ça peut conduire à la violence. Voilà, ça fait partie des choses qui me réjouissent.
Un vrai antidote, en fait, au vivre ensemble, hein, que tu proposes à travers tes actions. Le Ftor pluriel, oui, tu l'as rappelé, ça fait 15 ans. C'était 15 ans en 2025.
Ouais.
Et est-ce que tu comptes en organiser un l'année prochaine?
Alors, à Casa, bien sûr, le 16e anniversaire. Et à Bruxelles.
Bruxelles, c'est l'année prochaine.
Vous êtes invités, les gars.
C'est gentil. On y sera à Bruxelles, magnifique,
oui.
Bruxelles.
Oui,
c'est bien, et qui est aussi un pendant européen, oui. à cette action-là, parce qu'elle est porteuse vraiment d'espoir et oui. De vivre ensemble, c'est assez exceptionnel.
Inch'Allah.
Et Bruxelles est une ville qui, elle-même, avec l'Europe, le représente bien oui. aussi.
Oui.
Alors, on arrive à la fin de l'émission. Et je vais vous demander peut-être de vous adresser aux auditeurs avec une phrase ou quelques phrases inspirantes qui pourraient peut-être les convaincre à leur tour de s'engager dans le secteur associatif.
Bah,
tu te lances?
Moi, je passe de, bien sûr. Moi, je parle de mon parcours. Hein. Si vous croyez en vos rêves, si vous avez des projets, ne jamais lâcher. Continuer, même si les gens vous disent non, t'y arriveras pas, que ça soit dans l'associatif ou autre, hein, non, t'y arriveras pas parce que tu viens de tel quartier ou autre. Continuez, ne lâchez rien et à la fin, vous y voyez la lumière, comme on dit. Juste pour l'histoire, moi, mon projet depuis le début, il y a 4 ans, c'était l'ouverture d'une ressourcerie solidaire où des personnes pouvaient venir, enfin créer un magasin en fait, où des personnes pouvaient récupérer des choses gratuitement. Donc c'était mon projet final il y a 4 ans, avant de lancer tous ces groupes et tout. Donc ça me trottait dans la tête et 4 ans plus tard, normalement ça va ouvrir. Ça va voir le concept va voir le jour dans pas très très longtemps. On a eu 250 mètres carrés dans le Val d'Oise pour créer la première ressourcerie totalement gratuite de France. Donc il y aura une partie payante sur le même concept qu'Emmaüs ou le Maillon. On n'a rien inventé par rapport à ça, mais nous, grâce à ça, on pourra créer de l'emploi, prendre de l'alternance, faire de la réparation. Donc voilà. Et l'autre partie sera dédiée aux femmes victimes de violences conjugales. Donc ça sera un lieu où ils pourront venir récupérer tout ce dont ils ont besoin pour leur logement, donc gratuitement. Et il n'y aura pas que des objets, il y aura aussi du maquillage, il y aura des fleurs, parce que voilà, vu que l'asso commence à grossir, on est en partenariat avec pas mal de boutiques, des fleuristes, avec des spas sur Paris. Et pareil, on offre également des places à ces femmes-là, pour prendre soin d'eux, et ça c'est totalement gratuit, et ça c'est par le biais de l'association Tous Solidaires.
Bravo Redouane, bravo. Je tenais à te remercier d'avoir accepté mon invitation sur cette émission, mais surtout à saluer ton action qui est exceptionnelle.
Je te remercie.
Et qui a un vrai impact et qui répond à des besoins réels sur le territoire.
Et juste, c'est un projet, là c'est en cours, hein, parce qu'on a de très bonnes connexions maintenant. Donc il y a des très gros projets qui arrivent, c'est ouverture d'antennes, donc tous solidaires, c'était dans le Val-d'Oise, aujourd'hui on est dans l'Île-de-France, et on arrive sur Dreux, dans l'Ouest, et sur Marseille.
Bravo.
Cette année.
Bravo.
Merci.
Et puis je te souhaite d'être, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, je te prévois un destin national pour cette association.
Je te remercie.
Merci Redouane, merci à toi. Ahmed, à ton tour, est-ce que tu peux essayer de convaincre nos auditeurs de rejoindre le secteur associatif en leur partageant aussi des phrases inspirantes peut-être? On t'écoute.
Je vais terminer par une phrase d'un jeune, qui vivait en France, un jeune franco-marocain qui est rentré. Qui s'appelle Saïd Atmani. Il est rentré à Rabat et il est en train de faire de très belles choses. Parce que vous savez, l'organisation de la CAN à la fin de l'année et l'organisation de la Coupe du Monde dans 5 ans, c'est aussi un appel d'air. Beaucoup de jeunes franco-marocains se sentent attirés, bon, alors, bien sûr pour venir assister au match, mais aussi parce qu'ils ont envie de créer des entreprises. Et c'est en train de se faire. Et je vais terminer par sa phrase. Je l'ai trouvée tellement belle. Et ça s'adresse aux jeunes. Déjà dire à notre jeunesse qu'on l'aime. Redouane, tu l'aimes cette jeunesse, ça se voit. Ah ben, Assad, c'est même pas la peine que je le dise. Je te connais depuis trop longtemps pour en douter. La jeunesse marocaine qui va vous écouter, parce que moi je vais bien sûr insister pour qu'ils écoutent cette émission, leur dire qu'on les aime, leur dire qu'ils sont magnifiques, qu'ils sont intelligents. Les jeunes franco-marocains, leur dire le contraire de ce que peuvent leur dire les chaînes d'infos. Info. On continue, leur dire qu'ils sont intelligents, qu'ils ont un gros potentiel, que leur avenir n'est pas de faire le chouf dans un quartier. Leur avenir, c'est de devenir des leaders. Et je suis convaincu qu'ils en ont toutes les qualités. Et je vais terminer par cette phrase, je la trouve magnifique, qui s'adresse aux jeunes. Engagez-vous comme si l'avenir dépendait de vous. Parce que oui, justement, l'avenir dépend de vous.
Absolument.
Merci Ahmed, merci pour cette phrase qui effectivement a du sens pour notre jeunesse, et je crois aussi comme toi que la jeunesse aujourd'hui a besoin d'être inspirée par des gens comme toi Ahmed, comme toi Redouane. Vous réalisez, je pense un peu, mais que vos parcours à tous les deux va forcément inspirer des jeunes. Moi Ahmed, tu m'as inspiré à mes débuts, je t'ai connu il y a 25 ans, j'étais jeune, très jeune il y a 25
ans. Moi aussi.
et tu m'as inspiré à l'époque, et ça a nourri mon engagement associatif. Redouane, je suis certain que certains jeunes qui t'accompagnent dans tes actions s'engageront aussi, montreront leur association.
Et je les aiderai avec grand plaisir.
On peut te retrouver sur les réseaux sociaux.
Ouais, sur Facebook.
Nous aussi.
Ahmed, comment Facebook on peut te suivre? Parce que
Facebook, Insta, TikTok, oui, LinkedIn.
Oui, et puis c'est vrai que Facebook, c'est Ahmed, @Ahmed Gayet.
Oui.
GHAYAT.
Et marocain pluriel aussi.
Et marocain pluriel aussi. Et en plus, c'est quotidiennement que tu publies quasiment pour
tout
te suivre.
Temps,
voilà. Redouane, pareil, on te trouve.
Moi, sur Facebook, c'est Tous Solidaires. Sur LinkedIn, c'est Redouane Lazare. Et vous avez directement la page de l'asso. Juste, pourquoi toujours croire en ses rêves, surtout quand on est jeune? C'est qu'avec des jeunes, il y a 4 ans, des jeunes de Vauréal, des quartiers, ont récupéré des choses dans les encombrants. 4 ans après, avec les mêmes jeunes, donc c'est juste pour voir l'évolution, c'est Netflix et Amazon qui nous contactent pour vider leur studio lorsqu'ils finissent un film maintenant. Donc, entre guillemets, des trottoirs, on est passé à...
Bravo.
Attends, t'es en train de me dire, là, à la radio,
ouais,
que tu vas sur les plateaux où des films...
Films et séries.
Et séries sont tournés par des grosses plateformes
Amazon comme Netflix. Et Netflix, ouais.
Tu y vas et tu... Mais on a une célébrité devant.
Amazon, Netflix et Pathé Gaumont. Donc tous ces cinémas qui fait que on récupère des trucs neufs. Mais c'est juste pour montrer que ces mêmes jeunes-là, à la base on était 6, aujourd'hui on est plus de 60 en Île-de-France, maintenant bénévoles, actifs, on prenait dans les rues à chaque fois que c'était le jour des encombrants pour voir ce qui fonctionnait, ce qu'on pouvait réparer pour les gens. Et qu'aujourd'hui, on arrive maintenant à avoir des choses entre plus qualitatives. Et c'est Amazon et Netflix qui nous contactent pour venir les récupérer.
Magnifique.
Donc
bravo,
c'est top.
Bravo, bravo.
Donc ne jamais lâcher.
Jamais.
Voilà, l'émission s'achève. Je rappelle quand même une date importante, le 20 novembre, Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a un ciné-débat à cette occasion, le 20 novembre, au cinéma Utopia à Saint-Ouen-l'Aumône. J'y serai évidemment, puisque je l'organise ce jour-là. Et je vous dis rendez-vous chaque deuxième lundi du mois. et quatrième lundi du mois sur notre émission Les Voix de l'Engagement à partir de 9h30. Merci à tous et à très bientôt. Merci Redouane, merci Ahmed.
Merci, merci à toi.
Au revoir.
Au revoir. We'll be right back.